13h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon mardi, que pour celles et ceux qui aiment le football, vous vous êtes régalés avec cette soirée de Champions League sur Europe 1. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le football, voilà, nous sommes à nouveau ensemble et ce jusqu'à 1h du matin. C'est votre libre antenne, chers amis, une libre antenne un peu courte ce soir. Mais peu importe, puisque nous sommes ensemble. Alors, ce soir, comme d'habitude, vous le savez, pour nous joindre, 39 21, 50 centimes d'euros la minute, 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous écrivez toujours à Natacha et Florian vos mails, vos messages sur notre groupe de parole Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin, La Libre Antenne, ou sur notre adresse mail à libreantenne@europe1.fr. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Nina au 39-21. Bonsoir Nina.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors, track.
Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que hier soir, je sais que vous avez patienté le temps de notre dernier témoignage et puis que ce témoignage est un peu, il a duré un peu, donc j'ai préféré que nous fassions cela ce soir. Donc merci pour votre patience et pour le track. Il n'y a pas de track à avoir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
D'accord. Ben, j'espère.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Nina ?
Alors moi, j'ai 53 ans, même si... Enfin voilà, j'ai 53 ans.
Oui.
Et ça y est, je commence à bafouiller. Je suis en Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qui vous amène, dites-moi, Nina ?
Ben, en fait, j'ai des soucis avec la CAF, qui devait me verser le RSA, parce que quand je ne travaille pas, je touche le RSA.
D'accord.
Et donc, ça fait 3 mois là que j'attends. Enfin, disons que le 3e mois, ils m'ont versé seulement 329 euros pour novembre, alors que normalement, je devais toucher 479, quelque chose comme ça. Donc, j'ai donné les pièces à fournir, parce que je me bats depuis 1 mois et demi. Donc, le 5 octobre, j'ai tout fourni, j'ai mis dans leur boîte aux lettres les documents qu'ils me réclamaient. Et en fait, j'attends toujours que ça se résout. Et de même pour la PL. Parce que c'est pas seulement le RSA que j'ai pas touché, c'est aussi la PL qui fait que mon loyer gonfle. Parce que, voilà, il compte sans la PL. Et du coup, moi, je vois le chiffre augmenter et ça m'effraie, quoi.
Bien sûr.
Et donc là, sinon, la chargée de location locative m'a dit de considérer comme si j'avais la PL et de compter mon loyer normal, quoi, pour le payer. Sauf que pour ce mois-ci, j'ai pas pu le payer parce qu'ils m'ont versé que 329 euros. Donc je n'ai pas pu payer pour ce mois-ci.
Votre loyer s'élevant à combien, Nina ?
Ben, en fait, quand j'ai la PL, c'est aux alentours de 300.
D'accord, oui. Donc oui. Là, si je compte bien, en fait, il ne vous restait que 29 euros si vous payez votre loyer avec les 329 qui vous restaient.
Oui, d'autant plus que depuis 2 mois, ils n'avaient pas pu se payer, parce que ma banque elle prend des frais bancaires, enfin des frais normaux, quoi, tous les mois 5 euros. Plus, comment on appelle ça ? L'assurance, parce que ma banque, c'est l'assurance aussi. L'assurance de la maison.
D'accord.
Donc voilà, et mon assurance par mois, ça fait à peu près 16 euros et quelques. Et donc, ils n'ont pas pu pendant 2 mois se payer. Donc, ils ont retiré ce qu'ils devaient prendre. Et ils m'ont aussi compté 90 euros d'agio. Alors voilà.
Oui, donc j'ai pas... Vous vous enfoncez tout doucement en fait.
Oui. Alors du coup, j'ai appelé la chargée de location. Enfin, je sais plus comment. Bref. Et je lui ai expliqué la situation. Que j'avais toujours pas reçu les rappels de la CAF. Et que de plus, ma banque m'a pris 90 euros. Donc du coup, on a réfléchi ensemble. Et elle m'a dit qu'on va attendre le rappel de la CAF. Et à ce moment-là, on fera le point pour que je puisse payer mon loyer du mois de novembre. Enfin, en fait, c'est octobre, payable en novembre.
D'accord.
Oui.
Mais vous avez parlé un peu à votre banque aussi, afin d'éviter de vous faire plonger un peu plus avec les agios et tout ça?
En fait, j'ai pas osé y aller. On me l'a conseillé. Enfin,
ah oui, il faut leur parler. Parce qu'il faut... Il faut d'abord leur expliquer la situation dans laquelle vous êtes, parce que les banquiers ne sont pas non plus des sauvages. Hein. Il faut.
Non, je sais, moi je m'entends très bien avec ma banque.
Bah oui, donc il faut vraiment expliquer votre situation, parce que si à chaque fois vous vous prenez 50 euros par là, 100 euros par là, 129 euros par là, moi j'ai des connaissances hein, qui ont tardé à parler à leur banque.
Oui.
Et qui étaient déjà dans le rouge et qui se sont retrouvés encore plus dans le rouge parce que bah, la banque, avec des chèques, vous savez, ils faisaient des chèques qui n'ont pas été donc sans provision, donc rejetés. Donc là, à chaque fois, c'était des agios. Plein de choses comme ça qui s'accumulaient, en fait. Des échéances qui arrivaient à la banque et qui ne pouvaient pas être honorées. Allez, encore des frais d'agence et tout. Bon, c'est...
Moi, l'année dernière, en fait, il m'avait pris 100 euros, mais parce que c'était la taxe d'habitation. Alors que moi, normalement, si je touche le RSA, normalement, je ne devais pas payer la taxe d'habitation. Et les impôts sont venus sur mon compte l'an dernier. Donc, ça, c'est tierce détenteur, enfin, je ne sais plus comment on dit ça. Et du coup, la banque m'avait pris 100 euros. Et j'étais persuadée que c'était les impôts. Et je devais voir ma banque pour toute autre chose. Et je leur ai dit, oui, en plus, j'ai les impôts qui m'ont pris 100 euros sur mon compte. Elle m'a dit, non, c'est nous. Je fais, ah bon, c'est vous? J'ai dit, mais je touche le RSA. Et en fait, j'avais les larmes qui coulaient. Et du coup, elle est partie. Enfin, c'est pas parce que j'ai les larmes qui coulaient qu'elle est partie voir sa collègue. Mais enfin, elle est quand même partie voir sa collègue. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va vous remettre vos 100 euros. Donc, elle est revenue. Après avoir vu sa collègue, et elle m'a montré le document comme quoi les 100 euros apparaissaient sur mon compte. Et moi, en fait, là, j'ai peur de revenir pour la même chose, vous voyez. J'ai peur de la même situation. Oh, c'est encore elle, toujours la même chose, vous voyez. Je me sens pas à l'aise. Et je sais que je devrais y aller. Je sais.
Oui, il faut y aller. Parce que vous tardez, parce que vous vous sentez, je suppose, mal, angoissé.
Mais c'est la semaine dernière, hein. Ça s'est passé la semaine dernière.
Ouais.
Ils me les ont pris, voilà, la semaine dernière.
Et donc, vous n'avez pas osé?
C'est pas trop tard, peut-être.
Non, non, non. Non, ça n'est pas trop tard, mais... Vous voyez, demain, ça serait bien que vous décidiez à y aller.
Oui.
Pas avoir peur, en fait. Il peut rien vous arriver de, vous voyez, de grave. Hein?
Non, non, a priori... a priori, non.
Mais non, non.
Non, mais j'en ai marre de ces situations, vous savez.
Oui, bien sûr, bien sûr.
D'argent, ces situations où on est pauvre, en fait, voyez. Enfin, moi, je sais que je ne suis pas pauvre dans ce que je suis, qui je suis, mais on pourrait considérer que je suis pauvre parce que je n'ai pas d'argent.
Oui, oui.
Ou pas suffisamment d'argent, voyez.
Vous soulignez quelque chose d'extrêmement fort, là. C'est qu'on peut être... très riche dans nos têtes, avoir plein de qualités, plein de sens, plein d'esprit, et puis ne pas gagner du tout sa vie, et ça peut finalement ralentir plein de choses, malheureusement, le fait de ne pas avoir du tout d'argent, d'être pauvre, comme vous dites.
C'est ça, d'être au seuil de la pauvreté.
Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, quelle est votre analyse sur votre situation, Nina? Le fait que vous soyez pauvre, en fait.
C'est horrible. Quand je vous entends dire ça, ça me fait bizarre.
Alors, ne parlons pas de pauvre, parlons de précarité.
Non, mais vous avez raison, mais ça fait drôle, ça fait bizarre de l'entendre.
Ben, vous me l'avez dit, en fait, hein, je ne me serais pas permis d'emprunter ce mot-là, mais je trouvais que c'était très fort de votre part d'employer
non,
ce mot.
Parler, on est là pour parler et dire les choses avec les mots tels qu'ils sont. Donc oui, il n'y a pas de souci, mais en fait, comment je peux dire? Je ne sais pas si j'ose pas réussir, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai des qualités humaines, mais des qualités aussi professionnelles. Et à la base, moi, je suis maquilleuse. Voilà, je suis maquilleuse, bon, bref. J'ai aussi fait un autre diplôme après le diplôme de maquilleuse. Enfin, après ma formation de maquilleuse, j'ai fait une formation, un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc, j'ai ces diplômes-là. J'ai été à l'université il y a quelques années de ça. J'ai fait donc un... J'ai le niveau, en fait, le niveau DUG, parce qu'à l'époque, c'était le DUG cinéma, option vidéo. J'ai plein de bagages. Outre ces diplômes et cette formation, j'ai aussi... j'étais dans une... Comment on peut dire ça? Un atelier photographique, où j'ai appris... Enfin, j'ai appris à me persévérer. Non, comment on dit? Excusez-moi. Enfin, je me suis perfectionnée, voilà, ça je cherchais, perfectionnée en photo. Et grâce à ça, j'étais dans un groupe, on a fait des, comment on appelle ça, des expos, photos. J'en ai fait deux ou trois seules, en solo. Enfin, j'ai plein de bagages, j'ai plein de choses, des acquis. Et tout récemment, comme j'ai pas les moyens, voilà, je me suis dit, mais bon, j'en ai marre de pas avoir les moyens. Et dans les magasins, je trouvais pas vraiment des vêtements qui me... Enfin, la période où j'ai été dans les magasins, il n'y avait pas le vêtement qui me plaisait. Bon, déjà, j'ai pas d'argent, mais en plus, les vêtements sont pas terribles, quoi. Et je me suis dit, mais franchement, ça serait vraiment bien si je savais coudre, en fait. Et j'ai jamais appris à coudre. Et j'avais tellement une telle volonté que, comme j'avais du tissu depuis longtemps, qui était là en train de dormir dans l'armoire, je me suis dit, ce tissu, quand même, va bien falloir un jour que je l'utilise. Et donc, j'ai commencé à le prendre et tout. Et j'ai coupé, j'ai dit, bon, moi, allez, je vais me faire une jupe longue, je me suis dit. Donc, j'ai commencé à couper. Et j'avais le trac, comme là, comme je parle, parce que je me suis dit, il faut que je réussisse. Alors, j'avais comme une sorte de trac, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, j'ai coupé le tissu, et comme j'avais le trac, j'ai dit, bon, je vais laisser reposer, et demain, je le reprends. Et le lendemain, je l'ai repris, et j'ai commencé à coudre, et en 3-4 jours, j'ai fait une jupe. Mais une jupe, vraiment. C'est-à-dire que quand je l'ai vue, et j'arrêtais pas de la regarder, parce que j'étais tellement étonnée que j'avais réussi à faire une jupe, alors que j'ai jamais appris à coudre de ma vie. Et elle est assez jolie, bon voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, bon, il y a une toute petite fente en bas de la jupe, j'ai rajouté des boutons blancs et dorés, enfin, ça, elle a un petit style, quoi. Après, bon, comme je sais pas faire le haut, j'ai mis un élastique, bon, tout bonnement. Mais voilà, c'était ma première jupe de ma vie. Après, j'ai commencé à continuer, quoi, en fait. Et j'ai fait des sacs. J'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai pas encore? Je cherchais. J'ai dit, j'ai pas de sac pour faire les courses. Enfin, si, j'avais des sacs, mais bon, je me suis dit, j'ai des beaux tissus, je vais faire un sac, comme un sac de shopping, vous voyez?
Oui.
Et j'en ai fait deux. Et je les trouve trop beaux, ils sont magnifiques. J'ai jamais cousu de ma vie des sacs. J'ai fait des sacs. Et là, j'en fais un pour ma mère. Que c'était son anniversaire le 19 novembre, donc je ne l'ai pas fini. Enfin, mais même les gens qui l'ont vu, enfin, les gens de mon entourage, n'en reviennent pas. Et j'ai ma voisine aussi qui a dit, mais comment ça se fait que... Mais ta fille, comment t'as pris un patron, enfin, comment t'as fait? Je dis non, comme ça. Et en fait, voilà. Et les gens sont étonnés. Ils regardent avec des yeux ronds, quoi, et la bouche ouverte, ils regardent, ils disent, mais comment ça se fait? Et voilà, mais j'ai pas fait que ça, bon, je fais plein d'autres choses et je me dis, bon, ben, j'ai des dons, quoi, enfin, je sais pas, j'ai des dons, j'ai toujours envie de savoir faire, en fait, j'ai toujours envie d'apprendre.
C'est super.
Oui, toujours, mais tout le temps, je suis trop, en fait, je suis un peu boulimique d'apprendre.
C'est très bien, c'est très bien d'être comme ça.
J'ai cette boulimie-là, quoi.
Il y a Annie qui, au 739-21, j'en viens sur la banque, hein, on va rester sur ce que vous me dites là. Elle vous dit qu'il faut négocier et qu'elle a réussi à se faire enlever 80 euros, vous voyez?
Ah d'accord.
Et puis, il y a un autre message qui n'est pas signé. Bonsoir, en tant que personne au RSA, il est possible de demander à la banque un forfait de compte client fragile qui empêche la prise de frais. Ça évite de payer les frais de rejet. La banque est obligée d'accepter. C'est une obligation légale, vous voyez.
Oui.
Donc, il faut vraiment aller les voir demain et vous signaler. Hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Le fait d'être créatif comme ça, ça doit vous apporter aussi une satisfaction et surtout celle de vous dire qu'au final, on peut moins consommer. Hein, vous arrivez à vous faire finalement des vêtements qui vous plaisent à vous et qui, à mon avis, sont très originales.
Oui.
Et c'est vrai que quand
je fais avec le tissu que j'ai. Hein.
Oui.
Mais... j'ai obligé de faire parce que par exemple j'ai fait mon sac, mais mon sac c'est la même tissu que la jupe et j'aurais aimé qu'il n'ait pas la même couleur parce que je peux pas me promener avec la jupe et le sac, vous voyez, ça ferait trop.
Mm-hmm.
Voilà, je prends ce que j'ai à la maison en fait.
Mais en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où vous allez où vous économisez ou en tout cas vous fabriquez des choses qui vous permettent de ne pas voyez de ne pas vouloir acheter.
Ben ouais, je fais le pain, mais pas le pain. En fait, je fais le pain express, le pain rapide, parce que j'ai vu sur internet parce que des fois quand j'ai des gens qui viennent à la maison, parce que moi j'ai pas internet, mais quand ils viennent à la maison, je me branche sur leur portable, enfin en wifi.
Oui.
Voilà. Et donc, il y avait une période où mon fils, il est venu me voir, tout ça, bon. Et donc, du coup, je me suis branchée sur son portable et j'ai découvert une fille, une nana, mais géniale, c'est une Canadienne. Elle s'appelle Kate Axe. Enfin, je pense que c'est une Canadienne parce que on l'entend pas parler, en fait. Elle fait son tuto et elle met des panneaux avec les explications. Et du coup, elle parlait de faire du pain dans la poêle, du pain qu'on fait à la poêle, en fait. Donc, je fais ça. Je fais ça, je fais des glaces. Trop bon.
Super.
Je fais des glaces, ouais.
Mais donc, si je comprends bien, avec ce diplôme de maquilleuse, avec votre expérience de maquilleuse, vous ne trouvez pas du tout de travail, du tout? C'est en institut que vous cherchez?
J'ai déjà travaillé. Non. J'ai déjà travaillé pour... ça m'a permis de faire mes griffes, comme on pourrait dire. J'ai travaillé sur des courts-métrages pour la Fémis. Plus une petite boîte naissante de production. Donc voilà, j'étais maquilleuse dans les premiers temps, vous voyez. Après ma formation, j'ai tout de suite été, appelée, quoi. Enfin, j'ai tout de suite répondu à des annonces. Et après, c'était de bouche à oreille, vous voyez. Donc là, j'ai commencé à travailler comme ça, comme on m'appelait régulièrement. Donc pour la Fémis, des choses comme ça. Et après, j'ai travaillé pour L'Oréal aussi, parce qu'il fallait absolument que je me maintienne dans mon logement, que j'ai pas des problèmes de paiement de loyer. Donc, j'acceptais un peu. Et comme j'ai créé une alerte sur ma boîte mail, qui me permet, ça s'appelle Job Beauté. Vous voyez, Job Beauté. Donc, du coup, je reçois les emails. Enfin, quand j'ai pas Internet, c'est un peu compliqué. Mais quand avant, parce que moi, j'avais Internet pendant au moins 9 ans. Et j'ai dû couper. Il fallait que je choisisse entre Internet ou payer mon loyer. Donc j'ai dû couper, vous voyez.
Oui, oui. Aujourd'hui, vivre sans Internet, c'est compliqué en plus.
Très compliqué.
Mais, ouais.
Mais bon, j'ai répondu donc à une annonce parce que L'Oréal cherchait des maquilleuses.
Ouais.
Donc moi, j'ai répondu.
Mm-hmm.
J'ai passé les tests. On était en groupe. Vous voyez, ils faisaient passer les tests en groupe. Donc j'ai réussi, et on devait avoir la réponse dans une semaine, et moi j'ai eu la réponse le lendemain.
D'accord.
Et je m'aperçois finalement, donc j'ai répondu à une annonce de maquilleuse, et finalement j'ai été embauchée comme, comment ils appellent ça, on se retrouve dans les magasins, alors on choisit un peu les distances où on veut se trouver, et je me suis retrouvée dans des Leclerc, dans des Carrefour, dans des, vous voyez, à être animatrice.
Démonstratrice, c'est ça?
Mais c'est plus animatrice quand même.
Animatrice.
C'est bien marqué. Ouais, c'est marqué animatrice sur la fiche de paye. Donc je me suis retrouvée animatrice et ça veut dire que je passais pas mon temps à maquiller.
Mm-hmm.
Non, il fallait aussi que je parle du shampoing ceci, du shampoing cela. Enfin, bon, ça me dérange pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'avais répondu à une annonce pour être maquilleuse.
Ouais.
Et je me retrouve à pas pratiquer.
Mmh. Et il était payé comment ce boulot? C'était bien payé ou pas?
Ben, je trouve que par rapport à ce qu'ils font comme marge. Madame Bettencourt, à l'époque où elle était encore en vie, tout ça, je me dis que nous, c'est des clopinettes, en fait. À côté de tout ce qui se met en poche, nous, je pense que nous... moi, ça m'allait. Pourquoi? Parce que ça me permettait de... Comment dire? D'avoir un complément. Mais en réalité, c'est pas suffisant parce qu'on est en stationnement debout tout le temps. Bon, ça encore, ça me gêne pas. Moi, j'aime bien marcher, j'aime bien être debout, je m'en fous. C'est pas grave, mais... Enfin, moi, je fournis beaucoup de boulot quand même, parce que quand je travaille, j'aime bien travailler bien. J'aime bien le faire bien, vous voyez. Et donc, même quand ça me plaît pas, je le fais bien, vous voyez. Donc, je sais pas. Bon, j'avais des bons retours par rapport au chef de rayon, vous voyez, parce qu'ils doivent marquer.
Oui, les appréciations.
L'animatrice, c'est ça. Et donc, j'avais des très bonnes appréciations. Des très bonnes appréciations à mon sujet. Finalement, après, bon, j'ai laissé. J'ai déjà travaillé aussi pour Guerlain. J'ai toujours voulu travailler pour Guerlain et j'ai réussi à travailler pour Guerlain.
En tant que...
Animatrice, non, conseillère beauté.
D'accord.
Oui, là j'étais à Marionneau.
Et ça, ces choses-là, vous ne pouvez plus les faire en ce moment ?
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2019, c'est moi-même qui l'ai trouvé, cette mission. J'ai bataillé pour... j'ai passé plusieurs entretiens. Le premier, quand j'ai appelé la première fois, on m'a fait passer un entretien téléphonique d'une demi-heure. Ensuite, on m'a dit de venir. Donc, ça veut dire que j'étais sélectionnée pour venir, en fait. On m'a dit de venir en tenue comme si j'allais travailler. Donc, cette tenue, je l'avais déjà, puisque j'ai travaillé pour L'Oréal. Donc, c'était la même tenue, vous voyez, en tailleur noir, classique, avec un t-shirt. Et donc, ensuite, quand je suis arrivée là-bas, j'ai passé un autre entretien écrit. Et ensuite, un entretien en face-à-face. Et donc, après, j'ai pu travailler. Mais c'était des petites missions. C'est pas... là, c'était... Ils avaient besoin pour les fêtes des mères. Donc, j'ai travaillé pour les fêtes des mères. Et je me suis dit, on va me rappeler, je pense qu'on va me rappeler, etc. Et en fait, quand je voyais qu'on ne me rappelait pas, j'étais un peu déçue. Mais bon, la paye, j'ai pas tellement apprécié la paye. J'ai pensé que j'allais gagner beaucoup plus. On nous avait annoncé 12 euros de l'heure. Quand j'ai vu ma paye, j'étais un peu déçue. Donc, si vous voulez, j'étais mitigée, en fait, par rapport à ça. Mais en même temps, j'étais vexée de voir qu'on ne me rappelait pas. Et en fait, comme je n'ai pas Internet... Eh ben, j'ai pas pu voir qu'ils m'ont écrit plusieurs fois pour me demander mes disponibilités. Ils ont affiché des dates et c'était à moi de répondre telle date, oui ça me plaît, enfin oui ça me convient, nanani. Et j'ai pas pu. Et en fait, c'est un pote à moi qui, de temps en temps, me prête un. Comment on peut faire en partager. Alors, il m'a dit, il n'y a qu'à venir, on va se rejoindre, et comme ça, tu ramènes ta tablette ou ton. Enfin, bref, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de portable encore de smartphone, donc j'avais ma tablette, il m'a dit, tu viens avec ta tablette. Et donc, du coup, c'est là que je dis, mais en fait, ils m'ont écrit. J'étais pas la seule, j'imagine qu'il y avait d'autres personnes à qui ils ont demandé si on avait des disponibilités, mais comme moi, je pensais qu'ils allaient faire comme L'Oréal. Vous voyez, parce que L'Oréal, chaque fois qu'ils avaient besoin de nous, c'était des SMS. Vous voyez, on recevait des SMS.
Oui, oui.
Moi, c'était pratique pour moi.
Oui, voilà. Je comprends. Ça n'est que partie remise, finalement. Vous allez peut-être pouvoir recommencer une fois que j'ai entendu que le président Macron disait que les magasins rouvrent à partir du samedi.
Je crois.
Donc, il va falloir relancer tout ça. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas des tout petits forfaits internet, mais non, je ne connais rien.
On m'a mis... Non, mais ça, je pense que je vais me débrouiller. Je ne vais pas me laisser faire, en fait. Je ne vais pas me laisser avoir par la technique. Ce n'est pas la technique qui va faire que je n'ai pas de boulot. Surtout que là, je suis un peu bien remontée dans le sens où j'en veux, quoi. Je veux vraiment travailler, j'en ai besoin.
Non, puis vous avez plus à chaque fois, donc il faut vraiment, insister. Vous voyez, je dis, vous avez plus à chaque fois que ça soit chez Guerlain, que chez L'Oréal.
Dans le sens plaire.
Oui, plaire. Oui. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir ça. Et oui. Même si c'est pas
mais en même temps, c'est pas des boulots qui me plaisent.
Oui, je me doute.
C'est pas mon rêve, c'est pas d'être animatrice.
Non, mais vous savez
ou
comment.
Ou même conseillère beauté.
Vous savez
moi,
comment c'est
ça,
aujourd'hui,
rêve, en fait.
Nina. Vous savez aujourd'hui combien c'est difficile cette vie. Combien l'important. Moi, je me dis à chaque fois l'important quand on est dans la précarité comme ça, si si on peut d'abord remonter un peu, quelques étages. Ou même remonter à la surface de l'eau pour respirer un moment et puis faire ce boulot quelques mois. Hein, vous voyez, le temps de vous remonter et puis après chercher en même temps, parallèlement.
Bah justement, à ce propos, Olivier,
oui.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand je voyais que Carla ne m'avait pas rappelé, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un SMS pour me dire que la RATP cherchait des gens, plein de gens pour l'été. C'était l'été... Attendez que je ne dise pas de bêtises. L'été quoi déjà? Je crois que c'était l'été 2018 ou 2019, je ne sais plus. 2018, je crois. Enfin bref. Et donc, ils cherchaient du monde. Donc, ben, j'ai passé les tests, encore une fois, tout ça. Et c'était pour faire, alors vraiment, le truc que jamais j'aurais imaginé que j'allais faire de ma vie. Attendez. Agent de régularisation. Oh, je ne sais plus.
Enfin, agent, il fallait, agent en fait, de régulation.
Oui, agent de régulation. Mais c'était, disons, à la RATP.
À la RATP, d'accord.
Oui. Et en fait, il fallait, parce que les gens qui prenaient le métro retrouvaient plus leur, enfin, ils n'avaient plus leur repère, comme il y avait des travaux sur la ligne E. Et donc, la ligne E, il fallait, on était postés là à 4-5 personnes, 5 agents, quoi, avec le gilet vert, là, tout ça, bon, bref. Et il fallait orienter les gens, leur dire le chemin. L'autre chemin à prendre parce que là c'était fermé pour travaux et fallait les informer. Voilà, fallait être aimable, etc. Enfin, fallait les informer et leur dire de prendre un autre chemin, une autre ligne pour arriver à destination. Donc j'ai accepté de faire ça l'été. Enfin, c'était entrecoupé de périodes où on travaillait pas. C'est-à-dire, on travaillait genre 2 semaines. Après, ils nous mettaient en vacances. On devait revenir. Et j'ai fait comme ça plusieurs horaires, vous voyez. Des fois, il fallait être à 7 heures là-bas ou bien à 14 heures, finir à 21 heures. Donc, j'ai connu toutes les horaires, voilà, toute la palette d'horaires avec eux. Bon, dans ma vie, j'ai pas fait que ça, mais j'ai fait plein de choses encore. Hein, mais bon, j'ai travaillé aussi, oui, j'étais chargée de mission dans le cinéma documentaire. Mmh. Fallait que j'inscrive les films dans les documents. Les films dans les festivals. Donc là je suis restée 3 ans. Et j'adorais mes patrons. C'était une famille, parce que c'est une petite structure.
Mais vous voyez, Nina, je pense, parce que l'info arrive dans une minute sur Europe 1, donc je pense vraiment que vous devez insister. Il y a l'alimentaire pour quelques semaines, quelques mois. Et puis, insister toujours dans le domaine de l'art aussi. Continuer d'essayer de faire la féministe, des courts-métrages, parce que vous savez, il suffit d'une fois. Vous savez comment c'est. Il suffit que vous tombiez sur un jeune réal qui vous fait participer à l'aventure, et puis, quand le projet du long-métrage part, et puis, il vous rappelle, et c'est parti, Nina. Donc, vraiment, gardez cette fraîcheur. N'hésitez pas à me rappeler, surtout. N'hésitez pas à me rappeler si... si ça rame un peu dans le boulot, parce que on passera. Bah, je vais vous garder encore un petit peu quelques minutes après le journal. Vous restez avec moi.
D'accord.
Et puis on se retrouve juste après l'info, d'accord ?
Oui. D'accord.
À tout de suite, Nina.
Oui.
Europe 1, il est minuit. Le journal de la rédaction, Julien Pierce.
Nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, un troisième confinement. C'est avec cet objectif affiché qu'Emmanuel Macron a présenté ce soir la nouvelle phase du confinement avec des allègements à la clé. 3 dates, 3 étapes ont été exposées par le chef de l'État.
Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements. D'abord, les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, tous les commerces pourront rouvrir, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict jusqu'à 21h. Au plus tard.
Réouverture donc des commerces dès ce samedi, à l'exception des bars, des restaurants, des salles de sport. On va y revenir dans un instant. Mais avant, la deuxième étape, la fin du confinement, elle sera pour le 15 décembre, si les objectifs sanitaires sont atteints d'ici là, c'est-à-dire moins de 5000 contaminations par jour et entre 2500 et 3000 personnes en réanimation. Le confinement sera alors remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin. Ce sera la fin des restrictions de circulation, la fin des attestations et la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées avec un nouveau protocole sanitaire. Concernant les fêtes de fin d'année, le couvre-feu ne sera pas effectif les soirs du 24 et du 31 décembre, mais les réunions sur la voie publique seront interdites. Troisième et dernière étape, le 20 janvier, si le nombre de contaminations n'est pas reparti à la hausse avec les fêtes, alors les restaurants, les bars et les salles de sport pourront rouvrir. Réouverture totale également des lycées, l'ensemble des élèves pourra revenir en classe. Quant aux universités, le retour à la normale se fera deux semaines plus tard, début février. Ce calendrier et l'ensemble de ces assouplissements seront détaillés jeudi matin par Jean Castex. Notez que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sera demain matin à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Les incidents et violences qui ont émaillé hier soir l'évacuation d'un camp de migrants sur la place de la République à Paris suscitent beaucoup de remous. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui deux enquêtes pour violence à l'encontre de policiers. L'un a effectué un croche-pied sur un migrant, l'autre aurait molesté un journaliste présent pour couvrir l'évacuation du camp. Des incidents et qui surviennent en pleine polémique autour de la proposition de loi sur la sécurité globale, texte qui propose notamment de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Eh bien, il a été adopté cet après-midi par l'Assemblée nationale avec 388 voix pour et 104 contre. La proposition de loi va maintenant être examinée par le Sénat. La disparition d'une légende du 15 de France. On a appris cet après-midi la mort de Christophe Dominici à seulement 48 ans. Son corps a été retrouvé cet après-midi dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Un témoin dit l'avoir vu chuter d'une dizaine de mètres depuis le toit d'un bâtiment désaffecté. Ailier virevoltant, symbole du French Flair, Domi, comme il était surnommé, était du haut de son 1m72, capable sur le terrain de soulever des montagnes, de renverser des situations, comme ce 31 octobre 1999 à Twickenham, où face aux All Blacks, Dominici emmène les Bleus en finale de la Coupe du Monde de rugby. Au commentaire ce jour-là sur Europe 1, Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo.
La balle reste toujours pour les Blacks, c'est que de l'avantage certain, alors que Galtier en a profité pour jouer au pied. C'est lui qui a subtilisé la balle.
Et il en met de la pression.
Oh, Dominici,
Dominici va marquer. Extraordinaire récupération de Toulonnais, Christophe Dominici, qui est allé aplatir là-bas. L'essai du bout du monde, c'est peut-être pas le même, mais il est fantastique.
Dominici, une fois encore, qui a étalé son talent, reprenant au rebond magistralement un ballon, débordant le dernier défenseur pour aller marquer cet essai. Mais que c'est beau.
Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo qui commandent donc cet incroyable essai face aux All Blacks en 1999. Christophe Dominici, ailier mythique du 15 de France, mais aussi du Stade français où il a soulevé à 5 reprises le bouclier de Brennus. Serge Simon était l'un de ses coéquipiers au club parisien, l'un de ses amis également.
Moi j'ai envie de garder un sourire. C'était un garçon... Oui, c'était un garçon très... très sensible, très fragile, et qui certainement, comme beaucoup d'entre nous, masquait sa fragilité par une certaine exubérance. Voilà, oui, il y avait une fragilité chez Domi. Ah, rugbystiquement, c'est une légende, oui. Quand on l'a vu arriver au Stade français, c'était compliqué, mais on a vu de suite qu'il avait un talent extraordinaire, d'avoir une pointe de vitesse, un sens du rugby, une vision du jeu, un crochet incroyable. Et c'était le début d'une histoire extraordinaire pour lui, qui l'a mené à cette demi-finale de 99 contre les All Blacks, où il a ébloui... ébloui la planète.
Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou. On termine avec le foot, la Ligue des champions et cette petite victoire du Paris Saint-Germain que vous avez vécue ce soir sur Europe 1. Les Parisiens l'ont emporté 1-0 au Parc des Princes face aux Allemands de Leipzig. Grâce à ce succès, le PSG repasse deuxième de son groupe et conserve ses chances d'accéder au huitième de finale. Plus d'espoir en revanche pour le Stade Rennais. Les Bretons se sont inclinés 2-1 sur leur pelouse face à Chelsea. Ils sont éliminés de la Ligue des champions mais peuvent toujours espérer être reversés en Europa League. La météo de demain, Anissa Haddadi, matin nuageux mais après-midi ensoleillé.
Oui, presque partout, hein, Julien. En effet, le soleil est au rendez-vous demain après-midi. Mais attention, en début de journée, dans l'Est, l'Alsace, la vallée de la Saône ou encore les Ardennes, nous aurons encore beaucoup de nuages bas et de grisailles matinales. En plus, ces brouillards seront tenaces demain matin et ils devraient tenir une bonne partie de la journée. Sur le quart nord-ouest aussi, le ciel est un petit peu plus couvert, comme sur le bassin méditerranéen. Dans le Languedoc, le Roussillon et jusqu'au sud du Massif central, beaucoup de nuages et de pluie tout au long de la journée. D'ailleurs, dans le secteur, le vent d'autant se renforce. Il va souffler demain jusqu'à 80 km/h. Les températures sont toujours fraîches à l'est, avec moins de 2 degrés à Belfort, moins 1 à Dijon, 0 à Colmar, 2 à Clermont-Ferrand, 4 degrés pour Paris, 6 à La Rochelle et Bordeaux, 8 à Biarritz et 10 à Brest. C'est la maximale demain matin sous les nuages. Et puis au meilleur de la journée, allez, ça remonte un petit peu, tout doucement, au thermomètre, grâce au soleil hein, qui va sortir presque partout. Nous aurons 8 à 12 degrés sur le nord-est, 12 à 15 en Bretagne, Normandie et région parisienne, et 14 à 18 partout ailleurs.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très belle nuit à tous à l'écoute d'Europe 1. Merci de votre fidélité. Votre libre antenne se poursuit à vos côtés, Olivier Delacroix.
Merci Julien, bonne nuit et à demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et vous êtes chez vous ici puisque c'est votre libre antenne, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler Natacha et Florian au 39-21 et peut-être aurons-nous le plaisir d'échanger ensemble ce soir ou demain. En tout cas, sachez qu'ils vous attendent tous les deux en régie avec Jean-François, notre réalisateur. Nous sommes avec Nina qui connaît la précarité momentanément, j'en suis sûr. Nina, vous connaissez cette précarité momentanément parce que
oui.
Je pensais à vous pendant l'info sur Europe 1 et je me disais que vous avez quand même de l'entrain, vous avez des idées, vous ne baissez pas les bras, on le sent dans votre manière de vous exprimer. Vous êtes très lucide sur votre situation et même si c'est dur actuellement, je sens beaucoup de bonnes choses pour vous. Alors, je ne suis pas Madame Irma, hein, mais il faut ces qualités, vous voyez, d'expression, de communication que vous avez. Et je pense que vraiment, en vous présentant aux gens, en communiquant, vous allez vraiment redécrocher des choses. Au 739-21, Papy Toc Toc vous donne un conseil. Il vous dit que pour le loyer, vous pouvez très bien faire un chèque qui sera encaissé quand vous aurez votre rappel de CAF. Et simplement quand il sera tombé, quand elle sera tombée, cette CAF. Et puis pour lire vos mails, Manel vous conseille d'aller dans des grandes surfaces avec votre tablette où il y a le Wi-Fi gratuit. Je ne sais pas si vous avez...
Maintenant, j'ai un smartphone.
Ah d'accord. Donc,
Faut que je peux aller avec mon smartphone.
D'accord. Bon, donc, parce que c'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, tout se fait...
J'ai un pote qui vendait son smartphone à 20 euros, alors en décembre 2019, je l'ai acheté.
Très bien, très bien.
Voilà. Donc, mais aussi, je voulais vous dire aussi que quand j'avais les périodes où j'avais très très faim, vraiment très faim, ça m'a soudain, j'ai eu une idée en fait, et j'ai commencé à griffonner plusieurs feuilles, et j'ai fait des croquis. Et j'ai écrit les choses qui correspondaient donc à ces idées. Et c'est en fait par rapport à la faim. Ça m'a évoqué comme des slogans en fait. Et j'en ai plusieurs.
Oui.
Bon, et j'ai mis un petit cœur en face de celui qui me semblait le plus parlant, le plus frappant. Et je me dis, y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Comme ça en fait. Parce que comme moi j'ai toujours des idées... J'ai besoin qu'elle soit qu'elle soit, enfin qu'elle sorte en fait, qu'elle sorte de mon cercle en fait, juste entre moi et ma feuille. Ou vous voyez, j'ai besoin de les exprimer, mais c'est pas pour dire oh regardez j'ai fait ça, vous rendez compte et tout. C'est à dire qu'une fois que c'est fait, et ben moi comme j'ai plusieurs idées à la seconde, enfin j'en ai tellement d'idées que à la limite même cette idée là, une fois que ça sera passé, bah tant mieux, voilà, si ça intéresse, si ça interpelle. Mais comme j'en ai d'autres, j'aime bien pas être occupée, mais j'ai besoin en fait de créer tout le temps.
Oui.
Vraiment, c'est comme si je pouvais pas faire autrement en fait. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Vous voyez, mm-hmm. Quand j'avais 7 ans, bon bah j'étais à l'école, voilà, ma, primaire, la petite école, et j'avais une maîtresse eurasienne, je me rappelle. J'étais à Paris, de rue Titon, donc c'est l'école Titon. Et en fait, elle disait, la première qui a terminé, elle aura le droit d'aller faire, enfin, dessiner, créer, fabriquer, ceci, cela. Et en plein milieu de la classe, il y avait une espèce de, comment on appelle ça? C'est pour tisser, en fait, faire du tissage.
Oui.
Et donc, on peut se fabriquer des trucs en tissage. Et donc, je pense qu'elle a dû me montrer, parce que je me revois encore avec cette grande machine où on s'asseyait presque au milieu de la machine. Et je me revois en train de tisser. Et comme j'avais tout le temps fini la première, du coup, ben, je me retrouvais à faire ce que j'avais le droit de faire, quoi. Du coup, lire un livre, peu importe. Et là, moi, je me suis fait un sac, c'est marrant. Je me suis fait un sac en tissage. Et je me rappelle la fierté que j'avais. J'avais 7 ans, c'est ça. Et j'étais contente. Et du coup, ben, j'ai mis mes affaires d'école dedans. Et tous les jours, j'allais à l'école avec.
Super.
Et j'étais contente. Parce que je l'avais fait, quoi.
Mais vous voyez, ça vous est resté, tout ça, puisque vous continuez, vous continuez à en faire. En tout cas, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, on ne sait jamais, si vous travaillez dans la mode, si vous travaillez dans le cinéma, dans la télévision, dans la photo, toute entreprise ayant besoin de maquillage, hein, je pense aussi à je sais pas, parfois il y a des mariages où on a besoin de maquiller la mariée, les demoiselles d'honneur. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse donner les contacts de Nina, qui, comme vous l'entendez, donne bien envie de collaborer avec vous, avec nous, nous tous. Nina, mille merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europa. Je vous embrasse. N'hésitez pas, vous connaissez le chemin maintenant, donc n'hésitez pas à me rappeler.
Je vous rappellerai pour vous dire ce que j'ai encore entamé.
Eh ben,
que j'ai commencé à écrire un livre pour enfants, mais c'est en hommage à mon père en fait.
D'accord. Eh ben, rappelez-moi pour me raconter tout ça. N'hésitez pas. Okay.
Voilà. Et j'ai aussi une autre idée, c'est de faire des podcasts éducatifs. Donc j'ai déjà tracé la trame du projet et ça sera à faire en collaboration avec des intervenants. Enfin voilà quoi.
Très bien.
J'ai toujours des idées en fait. Voilà.
Vous avez plein de projets et les projets c'est la vie.
C'est ça.
Je vous embrasse, Nina. Passez une bonne nuit.
Merci.
Au revoir.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie.
À bientôt.
À
merci,
bientôt. Au revoir, Nina.
Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 14 sur Europe 1 et j'ai encore l'occasion de vous remercier, vous toutes et vous tous, pour votre fidélité, car vous faites de cette émission la meilleure libre antenne de toute la France. Donc merci. Merci au nom de toute l'équipe de la libre antenne, car par votre fidélité, vous récompensez notre travail et nous, vous savez, on vous aime. Donc c'est peut-être la preuve que vous nous aimez aussi. En tout cas, merci d'être fidèle et présent tous les soirs, chers amis. On accueille maintenant Anne au 39-21. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir Anne, comment allez-vous ?
Alors moi je suis Anne, donc je suis très contente de vous parler. En
d'accord.
Plus j'ai vu votre livre, parce qu'il y a des femmes, et ben moi je dis aussi parce qu'il y a des hommes.
Oui, très bien.
Alors, vous m'entendez ?
Oui, quel âge vous avez Anne ?
J'ai 71 ans.
Et d'où nous appelez-vous Anne ?
Alors j'appelle de la Bretagne.
Oui.
Et puis je travaillais jusque-là, 71 ans, j'étais justement, j'entends la jeune femme avant moi, animatrice dans les supermarchés, mais en agroalimentaire moi.
D'accord.
Et je viens juste d'arrêter, vous voyez, parce que j'ai une petite retraite, donc je travaillais pour remplir mon frigo.
Oui, oui. Vous avez travaillé tard, donc.
J'ai travaillé tard parce que j'avais une petite retraite, mais j'ai travaillé depuis l'âge de 13 ans. Alors, je ne sais pas combien de temps on a pour parler, s'il vous plaît.
Mais c'est pas, il n'y a pas de calcul ici, vous savez. On prend notre temps.
D'accord. Ah, vous êtes très aimable, merci. Alors, je vous parle de ma vie. Donc, moi, je suis une autodidacte avec un parcours atypique. Hein.
Oui.
Je suis une fille de paysan pauvre dans les années 50. Et mes parents m'ont retiré du collège à 13 ans pour aller travailler dans une ferme pour 100 francs par mois.
Pour 100 francs
donc,
par mois.
Donc, j'ai travaillé dans une ferme. Pardon ?
Pour 100 francs par mois.
Oui, 100 francs par mois, ça fait 20 euros aujourd'hui, quoi. Hein.
Mm-hmm.
Et j'étais une jeune femme qui apprenait, qui avait envie d'étudier, mais enfin, comme on était beaucoup à la maison, on était 5 enfants, bon, voilà, c'était comme ça. C'est un peu comme en Afrique, vous savez, les enfants, on les fait travailler pour aider à vivre les parents. Alors, voilà, j'ai travaillé. J'ai toujours travaillé, moi. J'ai toujours réussi par le travail, moi, vous voyez. Et puis, donc, j'ai travaillé. Alors, après, j'ai travaillé dans une charcuterie. Après, j'étais employée de maison avec 6 enfants. Et je vous parlais de mon parcours, surtout pour parler de mon mari je suis mariée jeune, à 18 ans. Mon mari avait 20 ans, c'est le premier amour de ma vie.
Oui.
Et il y a une chose, c'est que mon père buvait un petit peu. Ma mère était une femme très, très dure, très courageuse, mais très dure. Et la veille de mon mariage, elle a fait mettre mon père dans une gendarmerie pour que le lendemain matin, il arrive me conduire à l'église à Jeun.
Mmh.
Alors, vous vous rendez compte que quand mon père est arrivé dans la cour avec l'estafette des gendarmes, moi, j'étais en robe de mariée avec tous les invités, la honte de ma vie. Donc, je voulais plus marier, quoi. Hein. Je faisais pleurer. Enfin, bref, je voulais plus marier. Donc, je me suis mariée avec ce fameux mari, adorable, premier amour. Mon mari buvait pas, gentil, adorable. Et on est partis tous les deux travailler animateur dans les grandes surfaces, dans toute la France, en produits bretons. Donc, on était habillés en costume breton, mon mari jouait du biniou, on avait une belle vie pendant 7 ans, vous voyez, tout était payé, les frais, les déplacements et tout ça. Puis un beau jour, après, j'ai eu un petit garçon, et puis moi, j'en avais marre d'être sur la route, parce que 5 semaines sur la route, 1 semaine de repos à la maison, je voyais pas mon petit bonhomme. Alors, j'ai dit à mon mari que j'aurais voulu changer de vie, quoi, faire autre chose. Et là, on a décidé de prendre un bar, hôtel, restaurant. Ah ben là, ça a été la fin des haricots.
Hein. Ah oui, oui, ça, on a toujours le fantasme que ça va être sympa, qu'on va pouvoir gagner de l'argent.
Ah oui, non, mais c'est pas gagner de l'argent. Moi, j'adore le commerce. Je suis une super commerçante. Mon mari aussi, on était deux bosseurs. Mais le problème, c'est que mon mari s'est mis à boire. Il buvait pas.
Il s'est mis à boire dans le restaurant.
Ah, il s'est mis à boire dans le bar parce que tous les copains disaient ah tiens, bois une bolée.
Alors moi, c'est compliqué hein, de tenir un commerce comme un bar-restaurant et surtout de justement, quand on est bon commerçant, de ne pas céder à...
Oui, de refuser à tous les verres.
De refuser les invitations, parce qu'à un moment,
oui.
Les clients peuvent se vexer, vous voyez, en disant... Ah,
oui, mais dans ces cas-là, cher monsieur, si on est à boire avec tous les clients, on ne tient pas debout à midi, on est fini.
On finit rond comme une queue de pelle sur les coups de 13h30, quoi.
Hein, bon, heureusement, je ne faisais pas pareil. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, il était devenu jaloux, possessif, et j'ai découvert un autre homme, en fait. Pervers narcissique, il me battait, il voulait pas que j'aille au bar, il voulait pas que je parle aux clients, enfin bref, j'ai vécu ça pendant 4-5 ans.
Mais il était comme ça avant
Non, justement, c'est qu'avant, il buvait pas du tout une goutte d'alcool, même quand on était sur la route, il ne buvait même pas un verre de vin au restaurant, c'est moi qui buvais un verre de vin à la
d'accord.
limite. Hein.
Donc c'est lorsque vous êtes arrivé
dans ce bar-restaurant,
dans ce bar-restaurant, et que finalement, j'ai l'impression, comme ça, qu'il vous a vu au contact d'autres hommes, qu'il n'a pas supporté.
Voilà. Mais pourtant, on s'adorait. Hein. On a été 7 ans sur la route, animateur, on était heureux comme tout, quoi. 7 ans de bonheur. Après, ça a été l'enfer. Bon, alors moi, j'étais battue, violée, enfin tout. Hein. Je vous raconte pas en détail parce que on croirait même pas, mais enfin, c'est vrai. Et j'ai jamais osé porter plainte parce que c'était un homme violent, mais il avait des armes. Alors, tout ça pour vous dire que, enfin, je vais abréger parce que je vais pas rester trop longtemps quand même. Après, moi, j'ai demandé le divorce. Et donc, j'ai eu la garde de mon fils. Mon fils avait 12 ans. Je suis la garde de mon fils et je suis partie vivre dans le sud de la France, en Ariège.
Mmh.
Et après, j'ai rencontré un ami qui était reporter conférencier qui m'a fait découvrir l'Afrique. Alors là, j'avais une belle vie de rêve. Moi qui avais toujours rêvé d'aller en Afrique parce qu'on parlait de l'instituteur tout à l'heure. Parce qu'à l'école primaire, j'avais aussi un instituteur, moi, à 8 ans, qui m'avait présenté un diaporama sur les Touaregs. Et j'ai dit, quand je serai grande, j'irai voir ces beaux pays. Voilà, bon, pour revenir à l'instituteur. Et donc, après, moi, j'ai vécu avec cet homme. On partait faire des reportages, on présentait des conférences dans les écoles, les maisons de retraite, tout ça. Puis un jour, mon fils, il s'appelle Erwan, il voulait pas venir avec nous parce qu'il disait, il fait chaud en Afrique, j'aime pas les scorpions, tout ça. Ben, je dis, c'est pas grave, chérie, tu vas aller chez ton papa, ce qui était logique. Parce que là encore, c'était pareil, vous savez, la garde partagée. Donc, je laisse mon fils chez son père. Je pars avec mon copain un mois au Niger. Je reviens, je vais chercher mon fils chez mon ex-mari. J'arrive dans la cour, reçu avec le fusil. Et il me dit, tu l'auras pas, je le garde, il est à moi. Ben, je lui dis, non, il est pas à toi, il est à nous deux, on le partage, c'est notre fils, c'est notre enfant. Alors moi, j'étais tellement choquée, j'ai appelé mon avocat, qui m'a dit, mais madame Intel, vous avez le droit de descendre votre fils avec les gendarmes en Ariège. Je dis, vous plaisantez ou quoi? Je vais quand même pas descendre mon fils dans une estafette de gendarmes jusque l'Ariège. Alors je me suis dit, un jour il va comprendre. Parce que son père le menaçait, vous savez, le pouvoir sur son fils, vous savez comment c'est. Bon, alors moi, je vais continuer ma vie là-bas. Et je pensais jamais que ça allait durer si longtemps. Ça a duré 7 ans. 7 ans sans nouvelles, sans rien. Et moi, quand je venais en Bretagne, je voulais aller le voir dans l'école et tout, et les instituteurs m'interdisaient de le voir, comme si j'étais vraiment une pestiférée, quoi. Et un jour, j'abrège, un jour, j'entends un coup de fil. Allô, je suis bien chez madame Intel? Ben, je dis oui. Il me dit, maman, c'est moi, je suis malheureux, je veux te revoir. Mais je dis, c'est pas possible, c'est toi, oui. Alors, il s'appelle Erwan. Et puis après, je lui dis, mais tu es où, là? Il me dit, je suis à la gare de Saint-Brieuc, j'en peux plus de cette vie. Alors moi, j'ai dit, bouge pas, j'arrive. Je suis arrivée à la gare de Saint-Brieuc, il était parti, il s'était engagé dans les parachutistes. J'ai retrouvé un garçon de 20 ans, je vous dis pas, j'ai quitté à 13 ans, je ne raconte pas le choc. Alors on est resté dans les bras l'un de l'autre pendant au moins une heure. Puis après, il m'a dit, faut que je rentre chez papa, tout ça. Ben, je dis, pas de problème, je te ramène chez ton père. J'ai ramené chez son père, mais j'ai pas rentré chez le père, j'ai laissé dans la route, quoi. Hein. Et puis il m'a dit, maman, je ne veux plus rester là-bas, je veux venir vivre avec toi. Bon, ben, j'ai dit, demain, parce qu'il repartait à l'armée, je passe te prendre, et puis je te ramène, ça attend au bout de la route, et je l'ai ramené. Et après, bon, son père, quand il a vu qu'il ne voulait pas vivre avec lui, bon, il nous a fait voir une vie impossible, quoi. Hein. Mais moi, une autre fois, pour mon divorce, il est venu chez moi pour... Bon, j'avais quitté, puis il me dit, on a des papiers à régler, il faut que je te voie. Ben, j'ai dit, on se voit dans un bar, dans un endroit neutre. Il me dit, non, t'inquiète pas, j'ai compris. Tu me payes un café, puis c'est tout. Alors, je le reçois chez moi. Moi, je pensais qu'il avait compris, quoi. Hein. Et je sers un café, puis il va aux toilettes. Et quand il arrive derrière moi, parce que j'avais le dos tourné, il me met un pistolet sur la tempe.
Oh là là.
Et il me dit, personne ne t'aura plus, tu vas mourir. Moi, je crois en Dieu, je vais vous dire pourquoi, parce qu'au même moment, mon fils était parti jouer dehors et il rentre dans l'appartement, vous vous rendez compte? Sans quoi j'y passais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les pervers narcissiques, hein, les hommes qui battent les femmes, hein, parce que moi, je suis une battante, hein, je peux vous dire, j'en ai vécu des trucs dans la vie. Hein. J'ai fait des conférences sur l'Afrique, j'ai traversé les déserts, j'ai fait de l'humanitaire, enfin bref. Eh bien, moi, je dis à toutes les femmes que le gars qui cogne la première fois, c'est fini. Mais il faut surtout pas lui dire qu'on va le quitter. Il faut partir en douce, parce que si on dit qu'on va le quitter, vous avez vu ce qui se passe, il vous tue. Hein, voilà.
Oui.
Voilà. Mais c'est malheureux quand même. Alors moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a plus d'amour entre les êtres, les hommes, les femmes. On est tous maintenant rivaux dans le travail, c'est pareil. J'entendais le monsieur l'autre jour avec sa copine, là, qui est pour la petite fille. Vous avez vu là avant-hier, je crois. Hein.
Oui.
C'est quand même malheureux de voir ça. Alors, les enfants, comme on dit, les enfants n'ont pas à juger les parents, mais si ces enfants souffrent, c'est de la faute des parents. Pourquoi se battre comme ça pour un enfant? Bon sang, on a fait un enfant, on s'est aimé, bon, après, chacun refait sa vie quand ça va pas.
Oui, mais
et aussi, une chose aussi, Olivier, moi, je trouve aujourd'hui, hein, parce que vous savez, moi, je suis à moitié psy aussi, avec tout ce que j'entends dans les supermarchés, j'entends plein de jeunes femmes qui me disent « Ouais, tu sais, moi, je regrette mon ex, je regrette mon ex. » Ben, je dis, avant de regretter ton ex, je dis, t'avais qu'à passer une bonne nuit d'amour avec lui, aller au restaurant et mettre tout à plat. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Parce qu'en général, vous savez, quand on quitte quelqu'un, on part avec un autre parce que c'est le coup de foudre et tout, mais c'est pas meilleur après. Hein. Faut toujours laver le linge et faire les chaussettes et faire la cuisine.
Ce que je voudrais savoir, en fait, c'est, je crois que vous avez été séparé de votre fils pendant 7 ans.
7 ans, oui.
À cause de cet ex-mari. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Que s'est-il passé exactement?
Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ben, il me l'a kidnappé, en fait, hein. Mais moi, j'ai pas osé appeler la police ni rien parce que j'avais tellement peur de lui. Et il a gardé mon fils en Bretagne et moi, je suis repartie vivre dans le sud et j'avais appelé mon avocat pour lui demander ce qu'il fallait faire. Et il m'avait dit qu'il fallait le faire descendre avec les gendarmes dans le sud de la France. Vous vous rendez compte? Alors moi, j'ai pas voulu parce que je savais pas si mon fils voulait, parce que j'ai pas vu mon fils, moi, quand je suis venue le chercher. Je savais pas si mon fils voulait vraiment rester vivre chez son père ou si c'est son père qui l'empêchait de venir vers moi, vous comprenez?
Oui.
Alors, j'ai écrit des lettres, mais vous ne pouvez pas savoir, les lettres d'amour, parce que j'aime mon fils. Et maintenant, il vit à côté de moi, ça fait 20 ans que je le porte à bout de bras, il est schizophrène maintenant, Olivier, il est devenu schizophrène, c'était un musicoste, il jouait de la batterie et tout. Après, il est parti dans la drogue, dans l'alcool, je me suis battue pour lui, 20 ans que je m'en occupe. Et bien aujourd'hui, il va bien, il a 51 ans, parce que j'ai appris aussi, je m'intéresse beaucoup à ça, que la schizophrénie, après 50 ans, ben, normalement, ça s'arrange. Et moi, j'ai fait aussi des interventions dans les écoles avec lui pour dire, moi, ancien toxicomane. Mais j'ai voulu continuer, mais vous savez, j'ai parlé à la police, tout ça, mais ça n'intéresse personne. Les gendarmes m'ont dit, ah, oh, mais que vous voulez, alors je dis, est-ce que vous voulez pas qu'on vienne parler dans les écoles? Il m'a répondu, ben non, c'est notre métier. Mais je dis, monsieur, est-ce que vous avez eu un enfant qui se drogue? Est-ce que vous savez ce que c'est un enfant qui se drogue? Il me dit, non, non, mais c'est notre métier. C'est ça qui manque aussi, Olivier. Les gens qui ont du vécu, pourquoi qu'ils vont pas apporter leur parole et pour aider les gens? Moi, je suis quelqu'un qui aide beaucoup les gens, vous savez, hein. Alors voilà, alors je recevais pas de lettre de mon fils. Une fois, j'ai eu une lettre. Je te connais plus, ma vraie mère, c'est Françoise, tu es ma mère génitrice. Oh là là. C'est tout ce que j'ai eu.
Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec lui?
Ah oui, oui, ça va bien. Bah, il vient à côté de moi, on se voit tous les matins, on se boit le café. Comme me dit le petit, il voit un psychiatre, il est suivi par une tutrice pour, ses, bah, pour son argent, quoi. Et le psychiatre nous dit qu'on est comme un vieux couple. Ben oui, on est comme un vieux couple, bien sûr. Mais je l'adore, on s'adore tous les deux. Vous savez, on est très très proches. Mais il est gentil, mon fils. C'est un garçon très doux, très gentil. Il n'a pas de violence en lui du tout. Oui.
Voilà. Écoutez, en tout cas, vous tirez quel bilan de tout ce qui vous est arrivé alors aujourd'hui avec du recul par rapport à cet enfant déjà, qu'est-ce que vous
avez vous dire un truc, je vais vous dire quand même, Olivier, mon fils, je l'adore, mais moi, j'ai pas de vie privée, vous voyez, moi, j'ai pas de vie privée parce que je vous dis franchement que si j'avais pas mon fils là aujourd'hui, la situation de la vie en France et tout, avec tout le vécu que j'ai eu, j'ai beaucoup été en Afrique et tout, ben moi, ce serait un billet d'avion pour le Maroc. Je reviens plus, je reste vive là-bas avec les femmes nomades et berbères et on se fait un petit restaurant. Et puis terminé. Voilà ce que je ferai. Mais je ne peux pas.
Okay.
Et lui, il veut pas venir avec moi, il veut pas voyager. Parce qu'il vit dans le noir toute la journée. Vous savez, la schizophrénie, c'est une drôle de maladie. Hein.
Oui.
Mais enfin, il boit plus d'alcool, il prend plus de drogue, c'est déjà bien. Je suis très contente de ça parce que j'entends et j'aide beaucoup des mères qui m'en parlent aussi parce que moi, je dis qu'il faut parler de ce problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, ils ont honte. Et ben moi, j'en parle.
Vous avez raison. Vous avez
et
raison.
J'aide des gens, beaucoup de gens avec ça. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai fait des conférences longtemps aussi, dans les maisons de retraite, ici surtout, sur le Sénégal, le Maroc, le Niger. Bon, maintenant, avec tout ce qui s'est passé en France, les attentats, tout ça, le Bataclan, bah, les gens veulent plus entendre parler de tout ça. Quoi, hein. Mais moi, ça me manque, tout ça, le contact, de faire des choses comme ça. J'étais fière quand je faisais ça. J'adorais faire ça, moi, des conférences. C'est comme ça. Mais j'ai de la chance d'avoir le caractère que j'ai, hein, parce que je peux vous dire, je suis une battante et puis je me laisse jamais abattre. Par contre, j'ai été voir une fois une psy ou deux, là, pour dans un truc psychiatrique. Et la dame, elle m'a vue deux fois, puis après, elle m'a dit, oh, bah, c'est pas la peine que vous reveniez, madame, vous êtes forte. Vous, ah, bah oui, je suis forte, forcément. On est forte de l'extérieur, mais on a des grandes souffrances intérieures aussi, hein.
Ah oui, oui, c'est jamais gagné d'avance, de toute façon.
Non. Mais il faut se battre, il ne faut pas abandonner ses enfants. Ou alors j'entends des fois des enfants qui sont homosexuels et tous les parents les rejettent et ils sont dans la rue, c'est pas bien ça. On a des enfants, il faut les accepter, il faut les aider. Moi je dis ça à toutes les dames que je vois autour de moi.
Très bien.
Et puis donner de l'amour aux gens, parce que sans amour on n'est rien. Parce que tous ces gens-là qui souffrent comme ça, c'est qu'ils manquent d'amour aussi. C'est pas vrai?
Oui, vous avez raison. Et votre famille autour, vous avez été supportée quand vous affrontiez tout?
Pas du tout.
Tous ces problèmes,
pas du
non
tout.
Non, du tout.
Pas du tout. Parce que moi j'ai vécu avec ce reporter journaliste là aussi pendant des années, 7 ans. Et attendez, vous allez rire. Enfin, rire, je dis ça maintenant, mais j'ai pas. Il m'a quitté pour une voisine qui était une Tahitienne, qui était mariée avec un gosse de 2 ans, qui foutait rien, ils étaient au chômage. Et mon couple s'est brisé en un soir. Et je suis repartie en Bretagne avec ma valise en carton, c'est le cas de dire, et 100 francs en poche. Et je suis arrivée dans un foyer de femmes seules à Saint-Brieuc. Et c'était des religieuses qui tenaient ça. Et quand elles m'ont vu arriver, elles m'ont dit « Oh là, madame, un tel, vous n'allez pas rester longtemps ici, vous êtes dynamique. » J'ai dit « Comment ? » Alors, il y avait des petits Chinois là, qui étaient là, je leur apprenais le français. Et moi, tous les jours, je regardais le journal. Et un jour, je vois une place, cherche serveuse expérimentée à 100 mètres du foyer. Alors, je dis « Ça, c'est pour moi. » Parce que je suis très intuitive, hein, je suis un peu médium sur les bords. J'appelle, puis le monsieur me dit, vous savez servir, vous? Ah ben, j'ai dit, comment, monsieur? Alors, il me dit, ben, venez me voir à 11h, envoyez votre tablier, puis on va voir. Donc, je suis arrivée à 11h, j'ai commencé le service, et à 1h30, il m'a dit, vous êtes embauchée. Voyez. Et de là, je suis partie restauration, après, j'étais vendeuse de maison, après, j'étais conférencière, animatrice, commerciale, beaucoup, sur 20 départements, j'étais responsable de secteur dans le Roquefort, ouais. Moi, c'est toujours le boulot qui agit toujours aux jeunes dans les magasins. On les entend, ils sont fatigués, ils veulent pas bosser. Ils me diront quand même plus à rien faire qu'à travailler. Ben, je dis dans la vie, mon gars, il faut travailler parce qu'au moins tu gardes ta dignité et ton honneur.
Mais vous avez raison, complètement, vous avez raison.
Bah oui, parce que maintenant, il y a tout le monde qui tire le diable par la queue, là, je comprends pas, ouais.
Et aujourd'hui, en fait, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va?
Bah, je me sens bien, Olivier, mais moi, ce qui me chagrine, c'est que... j'ai pas de vie privée, j'ai pas d'amis, hein, j'ai pas de copains, je veux dire. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas d'homme, enfin, bref, c'est pas grave. Pourtant, je suis une jolie femme, hein, je peux vous dire. Eh ben, aujourd'hui, moi, ce qui me tue, c'est que je ne peux pas vivre ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire que mon plaisir à moi, ce serait de partir en voyage, vous voyez. Mais je ne peux pas abandonner mon fils non plus. Je peux partir à la limite 15 jours, vous voyez, mais pas plus.
D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes, je trouve, très solide. On sent que vous avez de l'énergie, mais que cette énergie-là, elle s'est fortifiée avec les épreuves. Hein, parce que les épreuves...
C'est comme ça qu'on devient forte. Oui. Souvent, les gens ils me disent « t'es forte », mais c'est avec les épreuves de la vie que j'ai eu
complètement,
aussi. Hein.
Complètement, vous avez raison.
Il ne faut jamais se laisser abattre, et puis il faut se battre dans la vie, sinon on devient tous des locumènes. Là. C'est quoi ça? On voit les gens maintenant, ils ont plus peu de punch, plus rien, même dans les clients. Vous savez, monsieur, quand je suis dans les supermarchés, moi, je fais la psy toute la journée. Hein. Les gens, ils viennent vers moi, oh, c'est toi qui es là, Titane. Oh, alors ça va, Paulette? Ah bah non, ça va pas. Alors, je tente que ça, moi. Alors, mon mari m'a quitté. En 3 minutes, on leur fait une séance de psy. Ouais. Et les gens savent plus se battre aujourd'hui, je trouve. Vous savez, monsieur, je vais quand même vous dire une dernière chose. Qu'est-ce qui brise les couples aujourd'hui? Eh bien, les portables, tout simplement.
Vous trouvez?
Ah bah bien sûr, moi je vois dans les supermarchés, là, j'entendais des copains, des gars, des copains que je connais, des collègues, bah tiens, attends, j'entends parler à une copine, bon moi je sais qu'il est marié, il me dit, bon tiens, je vais voir une collègue tout à l'heure, on sort dehors. Non, mais c'est moi le mari, je vous ai pas tout dit, mais j'ai pas le temps ce soir. Eh ben c'est le portable, parce que c'est trop facile le portable, vous rendez compte? C'est ça qui brise les vies. Puis alors les gens devant la télé, les gamins, on n'écoute plus les gamins, on leur achète des trucs vidéo, on sait plus donner d'amour de toute façon, alors c'est ça. De dire aux gens qu'on les aime. Regardez, il y a une très belle chanson de François Valéry. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous donne du talent.
Ah, je ne la vois pas, je la connais pas, celle-là.
Moi, j'ai une mère qui était très dure, elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Mon père, il m'adorait, mais mon père, il a passé 20 ans en psychiatrie parce que ma mère, à l'époque, elle a été voir le maire et le maire l'avait fait interner parce qu'il buvait un petit coup, vous voyez. Ouais, alors, vous savez, c'est la vie, je connais. Hein.
Bon, en tout cas, ma chère, vous avez... ma chère Clara, vous avez une sacrée énergie, je sens. Je ne m'inquiète pas trop pour vous, à vrai dire.
Non, il n'y a pas à s'inquiéter, mais je voulais parler parce que j'ai été frappée aussi par le témoignage de la dame qui parlait de son fils en prison, là.
Oui, complètement. Mais vous avez aussi parlé du monsieur aussi, qui, c'était hier soir, ce papa qui...
Oui, ce monsieur, il m'a beaucoup touché, ce monsieur, depuis, oui, avec sa compagne, oui.
Depuis 6 mois, et qui a de grandes chances
qu'il... Parce que son ex, elle lui en fait voir, quand même. Mais vous savez aussi, Olivier, moi je connais des copains, hein, ils étaient séparés de leur femme pour pas qu'ils voient l'enfant, et ben la femme disait qu'ils avaient fait des attouchements à l'enfant,
oui,
hein,
oui,
attention.
C'est un grand classique, ça.
C'est lamentable de voir
ça. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui n'hésitent pas, vous voyez, Anne. Il y a des gens qui... et c'est pas plus des femmes que des hommes, hein, mais des gens qui pensent que en instrumentalisant les enfants comme ça, en racontant des bêtises.
Ouais.
Mais finalement, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que c'est aux enfants qu'on fait du mal.
Et c'est les enfants qui sont perturbés dans la vie après. Ouais. Regardez toutes les souffrances qu'ils ont, ces petits anges là. Moi, j'adore les enfants. Hein. J'aurais pas, vous voyez, moi, j'aurais pas de petits enfants par contre. Enfin, c'est pas grave.
Bon, eh ben écoutez, déjà, vous êtes en pleine forme.
Ah oui.
Je vois que vous êtes sur vos deux jambes, bien plantées, là, en pleine forme, et vous allez profiter de votre retraite, j'en suis certain.
Alors, puis je suis en train d'écrire un livre aussi, moi, sur
super.
Ma vie.
Super. Bah, vous savez quoi? Vous me rappelez quand tout ça avance. N'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas.
Chienne
vous
de vie, je vais l'appeler.
Chienne de vie. Alors, moi, oui, ok.
Je vous remercie, Olivier, de m'avoir écouté. C'est très gentil. Puis bonsoir à tous les auditeurs, à tout le monde.
D'accord.
Puis à Natacha, très gentille.
Ah, Natacha, elle vous fait un gros bisou.
Moi aussi.
Elle prend sa petite mimine, là, elle est en train de faire des bisous soufflés, vous savez.
D'accord. Puis on essaie de donner un peu de morale aux gens avec ce Covid-là. Hein.
Exactement.
Allez, prendre la vie avec philosophie, pas se prendre trop la tête. Hein,
oui,
ça sert à rien.
Vous avez raison, Anne. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit.
Merci, Olivier, à vous aussi. Merci beaucoup.
Au revoir.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
C'est une libre antenne plutôt dynamique, énergique ce soir. Est-ce que c'est le football qui vous rend comme ça, chers amis? Les soirées de Ligue de Champions, ou peut-être Lionel qui vous rend comme ça lorsqu'il anime ses soirées sur Europe 1? En tout cas, On a eu Anne, et puis on a eu aussi Nina, et deux femmes qui ont quand même une énergie particulière. Je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. On accueille maintenant Clara. Bonsoir Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Clara ? Alors, je sais que vous ne voulez pas spécifier la ville, hein, mais vous me dites pas, parce que je viens de voir sur ma fiche que je n'avais pas à vous demander où vous habitiez. Donc, juste l'âge que vous avez, Clara.
55 ans.
55 ans. D'accord. Racontez-moi ce qui vous amène.
Je me permets de vous appeler parce que j'ai été agressée chez moi.
Il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans et demi.
D'accord.
J'étais en train de dormir. Un individu est rentré chez moi et j'étais agressée pendant 6 heures, où j'ai subi les pires sévices. Et depuis, j'arrive pas à m'en remettre parce que j'y pense tous les jours. Le moindre bruit, je suis à l'affût. Quand je prends ma douche, j'entends un bruit, j'ai peur. La nuit, j'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai des crises d'angoisse, des flashbacks. Et pratiquement tous les jours, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer de vivre ou pas, parce que
alors, bien évidemment que cela vaut le coup de vivre. On va en parler ensemble et puis on va prendre le temps d'en parler, Clara. Parce que vous vous doutez bien que si vous me posez cette question, que vous attendez à cette réponse. Bien évidemment que la vie vaut le coup d'être vécue, même si on vit une épreuve très difficile, que l'on est agressé comme vous l'avez été, qu'on n'a rien demandé à qui que ce soit et puis que ça nous tombe dessus. Mais la première chose que je dois vous dire avant que l'on continue, c'est que tout ce mal qui est rentré chez vous il y a 2 ans, pendant cet été, toutes ces saloperies que cet homme vous a fait, tout ce poison, tout ce noir, toute cette puanteur, c'est à lui. Ça n'est pas à vous. C'est à lui. En fait, il faut vous dire aujourd'hui qu'avec le temps qui passe, il est reparti avec. J'aimerais juste savoir s'il a été arrêté, cet homme.
Non, parce qu'il a fait un délit de fuite.
Oui.
Il a 3 nationalités, donc il joue dessus. Et il est dans un pays avec sa famille et il n'y a pas de...
Il n'y a pas de convention.
De voilà.
Qui est cet homme ? Dites-le-moi.
C'était mon voisin, que oui. Je connaissais juste de vue.
D'accord, mais il a bien... c'était votre voisin, donc vous connaissez son nom, son prénom, que je voilà. Ne vous demande pas de me dire à l'antenne, mais lorsque vous dites qu'il avait une famille, il avait quoi, femme, enfant ?
Alors j'ai appris qu'il était... Non, il n'a pas d'enfant, mais il a une copine. Et que pendant l'agression, il a fait des vidéos qu'il a mises sur Snapchat.
De vous ? De vous ?
Je ne sais pas, je pense oui.
D'accord.
Donc ça m'a énormément perturbée, parce que je me dis, la commune où j'habite, tout le monde est au courant, donc c'est très dur à supporter, quoi, à vivre.
Je me doute. Comment ça s'est passé, cette agression, en fait ? Racontez-moi, vous dormiez, donc ?
Je dormais.
C'était donc la nuit, tard dans la nuit ?
Non, c'était au petit jour. Je ne sais pas quelle heure il était parce que j'ai jamais pu voir l'heure.
Oui.
Je dormais avec un masque de sommeil et j'étais réveillée par un bruit sourd.
Oui.
Je soulève le masque et là, je vois quelqu'un à ma fenêtre. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai essayé de crier, mais j'ai pas pu. J'étais tellement tétanisée.
Oui.
Il s'est jeté sur moi. Il m'a dit, si tu cries, je te tue.
Mmh.
Il m'a frappé tout de suite au visage, 2-3 coups de poing.
Oui.
Il a fermé toutes les fenêtres, fait le tour de l'appartement. Et là, j'ai subi les pires sévices pendant 6 heures. J'ai essayé de m'échapper, c'était encore pire. Enfin, ça a été l'horreur. Et pendant le temps, tout le temps de l'agression, ce que je souhaitais, c'est qu'il me tue pour en finir, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette encore
non.
à ce jour.
Il ne faut pas regretter ça. Il ne faut pas regretter ça. Pourquoi vous a-t-il pris pour cible, à votre avis ? Est-ce que vous avez la moindre idée de ça, puisque c'était votre voisin ?
Alors, je pense, enfin, c'est ce que m'a dit la psy, c'est qu'il s'était battu avec son frère 15 jours à l'avance à coups de couteau. Et comme moi, je suis infirmière, j'avais soigné son frère pour plaider par arme blanche. Et a priori, le point de départ serait ça.
De quelle nationalité est cet homme ?
Tunisien, marocain, français.
Tunisien, marocain, français. Alors comment peut-il être tunisien, marocain, français ? Dites-moi. Parce que je suppose que vous avez porté plainte, donc vous avez eu son identité, sa nationalité. Est-ce que sur sa carte d'identité, il est français, il est marocain ou il est tunisien ?
Je ne sais pas du tout. Mais je sais que l'un des deux parents est tunisien, l'autre est marocain.
D'accord.
Et lui, il est français puisqu'il est né en France.
D'accord. Les parents sont en France ?
Alors, ils étaient en France. A priori, ils sont tous partis au Maroc. Il n'y a
d'accord.
plus personne en France.
Vous savez où il est actuellement, en fait ? Il est au Maroc ?
Oui.
D'accord, ça, vous en êtes sûr ?
Oui.
D'accord, vous avez porté plainte contre cet homme ?
J'ai porté plainte et il va y avoir un procès. Il y a eu...
D'accord.
Est-ce que toutes les charges ont été montrées.
Que vous a dit la police, en fait, par rapport au fait qu'il était en fuite, cet homme, et qu'il était maintenant au Maroc ? C'est eux qui vous ont dit qu'il n'y avait pas d'extradition entre le Maroc et la France ?
Alors, c'est mon avocat qui m'a dit ça. Mais au départ, la police m'a dit qu'il était parti se mettre au repos au vert et qu'ils allaient l'attraper assez rapidement.
Où ? Au Maroc ou en France ?
Oui, au Maroc. Au Maroc.
D'accord.
Et je ne savais pas qu'il était au Maroc, moi.
D'accord. Eux le savaient qu'il était au Maroc ?
Ils l'ont su pratiquement tout de suite parce que comme il m'a volé beaucoup d'objets, il avait pris mon téléphone et mon téléphone a borné et ils ont pu le suivre comme ça.
D'accord. Quel âge il a, cet homme ?
20 ans.
20 ans. Aïe, aïe, aïe. 20 ans. C'est fou. Et à votre avis, c'est un malade ou c'est quoi, à votre avis, quand vous pensez à ce qu'il vous a fait, quand vous pensez à cet homme, vous pensez que c'est un fou, c'est un voleur, c'est un...
J'ai pas de...
Vous n'avez pas d'idée de ça ?
Non, je suis passée par toutes les phases, haine, colère et tout.
C'est terrible ce qui vous est arrivé, bien évidemment.
Et franchement, je ne trouve aucune excuse. Aucune. Et j'ai pas envie d'en trouver. Parce que ça me met hors de moi.
Oui,
de...
oui. Racontez-moi comment c'est déroulé la suite de l'agression, en fait. Donc, il vous laisse. Vous avez imploré qu'il vous tue, mais en tout cas, il aurait pu vous tuer. Vous êtes consciente de ça.
Oui, mais je crois que ça aurait été la meilleure des choses.
Non, on va parler de ça après, mais ne dites pas ça, Clara. Ne dites pas ça, parce que, bien évidemment, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Mais encore une fois, on va en parler. Vous pouvez passer au-dessus de ça. Vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Mais je vous certifie. Je vous certifie que vous l'avez, cette force. Tout être humain est capable d'affronter les pires des épreuves. On a tout un tas d'exemples autour de nous. Pensez à toutes ces personnes qui ont été déportées dans les camps lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu certains, leurs femmes, leurs enfants, pour d'autres... un père, une mère, un époux, des enfants. Vous voyez, on a ces exemples-là. Et puis, on pourra en avoir plein d'autres. Lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on perd sa famille dans un accident de voiture, lorsqu'on doit affronter la maladie, un handicap lourd. Il y a tout un tas d'exemples autour de vous. Quand vous vous déciderez à les regarder et à surtout connecter avec le fait que vous leur ressemblez, vous faites partie de cette race-là, de cette tribu-là, vous comprendrez qu'il y a un chemin pour s'en sortir, il y a un chemin pour passer au-delà de ça. Parce que finalement, c'est bien évidemment très dur ce que cet homme vous a fait. J'ai même du mal à l'appeler un homme, vous voyez. Mais encore une fois, c'est son mal à lui, c'est son côté sombre à lui, c'est son côté impur, son côté dégueulasse en fait. Et il est reparti avec. Vous comprenez, il est reparti avec. Ça n'est pas vous. Rien ne vous appartient dans cette histoire. Rien. Vous comprenez ce que je vous dis, Clara ?
Oui.
Rien ne vous appartient. Même le mal qu'il vous a fait, il doit partir à un moment et vous devez lui rendre. Vous devez l'évacuer en vous disant que ça n'est pas pour vous, ça n'est pas à vous. On continuera d'en discuter comme ça, de temps en temps. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que je suis curieux, vous me dites, hein, si je vous pose des questions qui vous embêtent ou qui vous fatiguent. La police a donc borné, il est donc parti, il s'est échappé au Maroc. Est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport à la police et la police marocaine ? Est-ce que les Marocains l'ont ciblé là-bas ? Est-ce qu'on sait où il est là-bas ?
Ils savent où il est exactement parce qu'il a retiré de l'argent là-bas.
Oui.
A priori, ça serait son frère qui l'aurait emmené en voiture au Maroc en passant par l'Espagne. Et la famille a été mise en garde à vue, mais n'a rien dévoilé, quoi.
D'accord. La famille, en fait, il n'y a plus personne en France ?
A priori, il n'y a plus personne. Hein.
Même le frère, l'autre frère qui l'avait blessé... Donc, à coup de couteau, est parti, lui aussi ?
Oui, oui, a priori.
D'accord. Alors, vous qui nous écoutez au Maroc, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter au Maroc, je sais même qu'il y a des dignitaires marocains qui nous écoutent parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils savent toute l'amitié, toute la culture commune que nos deux pays ont. Et puis parce qu'ils ont le respect et l'éducation que nous avons aussi. Si ces dignitaires marocains nous écoutent, il faudra absolument faire bouger cette histoire. Il faudra absolument que la police marocaine intervienne et qu'on puisse ramener et juger cet homme pour ce qu'il a fait. C'est très important pour Clara. Bien évidemment, au premier plan, c'est très important pour Clara. Mais c'est aussi très important pour la France, pour les Marocains qui nous écoutent, pour toutes celles et ceux qui se sentent, vous voyez, reliés, comme si nous étions, et nous sommes d'ailleurs des frères et sœurs, parce que nous avons une histoire en commun, nous avons tellement de choses en commun. Le Maroc est un pays que j'adore, vous savez, Clara. À chaque fois que je suis allé au Maroc, j'ai ressenti une énergie, cette terre est habitée de quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui se passe là-bas qui vous donne, je ne sais pas, un truc en tout cas qui, moi, je me sens tellement en vie là-bas, à chaque fois que je vais au Maroc. Et puis les Marocains sont des gens magnifiques. Mais voilà, si vous nous écoutez au Maroc, vous pouvez prendre contact avec nous, bien évidemment, et nous pourrons vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin pour connaître l'identité de cet homme et l'identité de sa famille. Parce que je suis sûr que là-bas, à des milliers de kilomètres, là-bas au Maroc, il y a, vous êtes là à nous écouter et à vouloir être habité par, vous êtes habité par ce sentiment de justice. Et le rétablissement, la réparation de Clara passera par le fait que cet homme soit jugé. Il ne peut pas en être autrement. Comment est-ce que vous pensez à ce procès qui arrive, Clara ?
À m'angoisse. De pire en pire. Là, j'attends le... je ne vais pas tarder à recevoir le procès verbal. Rien que de l'avoir et de le lire, c'est pareil, ça m'angoisse parce que je pense apprendre des choses que je ne sais pas. Et je me dis, est-ce que c'est la bonne chose d'avoir porté plainte? Enfin,
Bien sûr, Clara. Mais ça, c'est parce que, voilà, encore une fois, vous travaillez avec un psychologue ou quelqu'un?
Oui.
Et je suppose qu'il vous mène sur le chemin de la raison. La raison, c'est d'avoir porté plainte. Vous n'y êtes pour rien dans cette histoire. Vous êtes la victime de cet homme.
Oui.
Vous voyez, vous êtes la victime. Encore une fois, vous étiez en train de dormir chez vous, tranquille. Vous n'avez rien à voir avec tout ce côté ordurier là, de cette histoire. Ça n'est pas à vous. Donc, il va falloir vous débarrasser de ça. Et puis, assumer vraiment que vous devez obtenir réparation. Je sais très bien que ce n'est pas de l'argent tout ça dont on parle là. Mais réparation, c'est que cet homme paye pour ce qu'il vous a fait.
Ouais.
Parce que c'est de toutes les femmes dont on parle ce soir, Clara.
Oui.
De toutes les femmes qui sont violées comme ça et dont les agresseurs doivent vraiment payer et faire des années de prison pour ça. Et pas 2 ans, 3 ans de prison. Des bonnes peines de prison pour qu'ils aient bien le temps de comprendre que on ne fait pas ça. Donc, rien à regretter, Clara. Rien à regretter sur le fait que vous ayez porté plainte et que vous demandiez à ce que cet homme soit jugé. David nous écrit au 739-21 que le Maroc n'extradit pas ses ressortissants. Mais votre avocate peut porter plainte au Maroc en prenant un avocat marocain. Et ça, il faudrait le faire.
Ah, d'accord.
Il faudrait le faire parce que cet homme violent, il va recommencer. Et il va recommencer au Maroc, d'ailleurs. Parce qu'on nous écoute au Maroc, il faut bien qu'on prenne conscience qu'un homme comme ça, qui viole, c'est un prédateur. Et il a 20 ans. 20 ans, quand on ose faire ça à 20 ans, chers amis. C'est un tueur en puissance. C'est un violeur en série en puissance qu'on a là. Et je suppose qu'au Maroc, on n'a pas plus envie de partager quelques minutes avec ce type d'énergumène. Agathe partage l'info de ce podcast de ce soir. Pardonnez-moi, j'ai du mal à... J'ai toujours un petit truc dans la bouche qui me gêne, mais Agathe nous dit qu'elle va partager ce podcast. Et faire circuler l'information pour que vous puissiez atteindre votre objectif, Clara, c'est que cet homme soit condamné, emprisonné, puni. Et merci, Agathe, de partager ce podcast. Vous qui nous écoutez, vous pouvez en faire de même. Vous pouvez faire circuler cette information. Parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à partager des choses avec le Maroc. Même parfois, pour certains d'entre vous et certaines, à y aller, avoir des amis haut placés là-bas. Parce que je sais que certains d'entre vous ont de très bonnes relations au Maroc. Il faut impérativement... Alors, ce que je trouve scandaleux, hein, bien évidemment, c'est que ni l'Algérie, ni le Maroc n'extradient ses ressortissants.
Oui.
C'est purement dégueulasse, je le dis.
Oui.
Et je lance un appel là ce soir à ces dirigeants algériens et marocains et au roi du Maroc surtout, de faire en sorte que ces ressortissants qui ont commis des crimes en France ou en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, eh bien ces gens-là puissent payer, parce que c'est trop facile autrement.
Mmh.
On tue, on viole, on vole, on pille, et puis après on se barre au Maroc et on est tranquille. Est-ce que c'est comme ça que le roi du Maroc voit la justice? Est-ce que c'est comme ça, Votre Majesté, que vous voyez la justice? C'est un appel qu'on vous lance ce soir. Le roi Mohamed VI, c'est plutôt un roi moderne. Espérons que cet appel lui reviendra aux oreilles.
J'espère.
Clara, il est quand ce procès ?
Début janvier.
Début janvier. Donc ça arrive à grands pas là.
Oui, oui.
Mmh. Il va falloir être bien forte.
Oui.
Vous pourrez m'appeler hein, quand vous voulez, hein, là.
D'accord.
Vous pouvez, si vous avez envie, comme ça, de parler, si vous avez un petit coup de mou, si vous avez des renseignements à nous demander. C'est vraiment important que vous puissiez savoir que vous avez, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de gens autour de vous, que vous avez peu de famille, et que, voilà, comptez sur nous, sur Natacha, sur Florian, sur Jean-François, sur moi.
Hein,
ici, vous savez que vous avez des oreilles qui vont vous écouter et qui peuvent vous aider aussi.
D'accord.
Parce que si vous écoutez régulièrement cette libre antenne, vous savez que on s'engage dans des démarches, parce que c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, c'est que nous, 5 minutes, 10 minutes de notre temps, voilà, pour passer un coup de fil, pour envoyer un mail, pour faire bouger les choses, c'est rien dans une journée pour nous.
Mm.
Quand on a un peu de poids, vous voyez, un peu de...
Oui, je comprends.
Voilà, donc quand je vous dis ça, ça n'est pas en l'air.
D'accord. C'est gentil.
Alors, Natacha me dit que la France n'extradite pas ses ressortissants. Sauf que, Natacha, il y a des conventions, en fait, entre certains pays, et notamment les pays européens. Il y a aussi avec les États-Unis des conventions qui nous permettent d'échanger. Il y a certains pays en Amérique du Sud. On n'extradite pas n'importe où nos ressortissants, mais il y a des accords. Prenez par exemple l'affaire de Bertrand Cantat, il y a quelques temps. Même avec la Lituanie, il n'y avait pas d'extradition, mais il y avait, avec la convention des pays européens, il y a des chemins juridiques qui nous permettent d'avoir des accords. Et ces accords sont beaucoup plus faciles entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la Finlande, la Suède, tous les 15 premiers pays de la communauté européenne. L'extradition, en fait, est un terme un peu technique. Ce que je sais, c'est qu'en Algérie et au Maroc, l'extradition, c'est vraiment pris à 200%. On a beaucoup de mal à faire venir donc des gens qui ont commis des crimes sur le sol français et qui se sont réfugiés dans ces pays-là. Maintenant, un Allemand commet un crime et se réfugie en France, on a la possibilité, en tout cas, de discuter politiquement. On a des dirigeants qui se parlent. Et je vous assure qu'un Allemand qui commet un viol comme il l'a fait sur notre sol ne passera pas bien longtemps. En tout cas, il sera d'abord incarcéré en Allemagne, par exemple, ou en Angleterre, et il fera l'objet d'une demande d'extradition. Mais c'est vrai, Natacha a raison de dire que les pays ont du mal à extrader, vous savez. Bon, Clara, vous me rappelez quand vous voulez, en tout cas, d'accord ?
D'accord.
Et suivez cette piste hein, que nous a conseillé un de nos auditeurs, Agathe, je crois. Non, c'est David qui nous a conseillé. Demandez à votre avocate si elle peut porter plainte au Maroc en prenant un avocat marocain.
D'accord.
Et puis vous me rappelez quand
d'accord,
vous voulez.
D'accord, très bien.
Je vous embrasse et courage, Clara. Hein ?
Moi aussi.
N'oubliez pas ce
merci
que je vous ai dit.
Vous.
Réécoutez le podcast demain et n'oubliez pas ce que je vous ai dit.
D'accord.
Rien n'est à vous dans tout ça. D'accord ?
D'accord.
Bonne nuit.
Merci pour tout.
Au revoir, Clara.
Merci.
Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. Ça a été court ce soir. 1h30, moins l'info. Et puis, il nous restait une petite 1h20. Dormez bien, prenez soin de vous. Je suis déjà pressé de vous retrouver demain à partir de 22h30. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis, à demain. Salut.